Donc, ça me paraît tout à fait fondamental de parler de Jésus, fils de Dieu, parce que c'est ce qui distingue les chrétiens des autres, de ceux qui croient en d'autres religions. Ou, voilà. C'est Jésus, ce n'est pas seulement un homme exceptionnel, etc. C'est d'abord Dieu. Donc, voilà. Alors, on aurait pu, dans l'ordre des haltes, on aurait pu parler de Jésus vrai homme, avant de parler de Jésus vrai Dieu, parce que dans le sens où, au niveau de la connaissance, les apôtres, ils ont d'abord connu un homme, et après, ils ont découvert qu'il était Dieu. Alors ça, c'est vrai au niveau de la connaissance, mais au niveau de l'être, Jésus, c'est la personne de Jésus est une personne divine, c'est pas une personne humaine. Alors, il a assumé notre humanité, mais la personne de Jésus est divine, et comme vous savez que le Fils de Dieu existait avant Noël, il n'a pas commencé à exister à Noël ou à l'Annonciation, donc voilà, il était au commencement, alors comme le dit Saint Jean, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole, là c'est le logo, c'est la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça, parce que la personne de Jésus est divine, qu'on peut dire de Marie qu'elle est mère de Dieu. C'est dire de Marie qu'elle est mère de Dieu, ça marque l'unité dans la personne de Jésus. C'est une personne divine qui a assumé une nature humaine. Mais du coup, comme il n'y a qu'une personne en Jésus, Marie, en ayant donné l'humanité à Jésus, est mère de Dieu. Voilà, c'est juste pour introduire tout ça. Le titre de fils de Dieu, c'est toujours dans l'introduction, c'est le titre par excellence de Jésus, parce que c'est ce qu'est Jésus au-delà de tout ce qu'il peut faire, d'être sauveur, d'être maître, etc. C'est vraiment... ça nous dit vraiment qui est Jésus. D'ailleurs, l'évangile de Saint Marc se situe entre deux affirmations. Vous savez, au début, le premier verset, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Et puis après, vous arrivez à la croix, ou alors c'est le centurion qui dit, vraiment cet homme était fils de Dieu. Pour dire, c'est vraiment le titre par excellence de Jésus. Alors, il y aura quatre parties cette fois-ci. La première partie, ça sera plutôt vu du côté des disciples. Les disciples ont découvert Jésus, ont découvert un homme d'abord, et puis petit à petit, ils ont découvert qu'il était fils de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que fils de Dieu aussi, qu'est-ce que ça veut dire fils de Dieu? Parce que, alors je développerai un petit peu, parce qu'on peut entendre différentes choses derrière l'expression fils de Dieu. Et du coup, voilà. Alors ça, la première partie, ça sera plutôt comment les disciples, petit à petit, vont arriver à affirmer que de Jésus qu'il est fils de Dieu. Après, une deuxième partie, ça sera les affirmations de Jésus. Parce que Jésus, en particulier dans l'évangile de Saint Jean, mais pas seulement, affirme qu'il est fils de Dieu. Mais vous pouvez en trouver aussi beaucoup dans les hôpitaux psychiatriques qui affirment qu'ils sont fils de Dieu. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils le sont. Donc, il ne suffit pas de l'affirmer pour l'être. Mais en même temps, Jésus, on verra que c'est ce qui conduira à la mort sur la croix aussi. Voilà. La première, c'est plutôt vu du côté des disciples, comment petit à petit découvrent. Et la deuxième partie, ça sera plutôt les affirmations de Jésus qui se font de plus en plus précises jusqu'au moment où il est condamné à mort sur la croix et à mourir sur la croix. Voilà. La troisième partie, ça sera un moment décisif pour croire en Jésus, fils de Dieu, mais aussi Jésus, Seigneur, c'est la résurrection. Ça, il y a un avant et un après, on le voit dans l'attitude des apôtres. Donc ça sera la troisième partie. C'est voilà, au moment de la résurrection, à partir de la résurrection, alors là c'est quelque chose qui devient absolument plus clair aussi pour les apôtres, et voilà. non seulement Jésus qui est Fils de Dieu, mais qui est Seigneur. Mais j'expliquerai après. Et puis la quatrième partie, ça sera les conséquences, puisque Jésus est Fils de Dieu. Alors, nous sommes appelés à adorer Jésus, à lui obéir, à le prier. Et puis, nous avons la grâce d'être aussi Fils de Dieu à la suite de Jésus. Alors, Fils de Dieu par adoption, mais voilà. Voilà, ça c'est le plan. Ça va ? Vous voyez les quatre parties, c'est clair ? Bon, première partie, donc, vue du côté des disciples. C'est la révélation progressive du caractère transcendant de la filiation divine de Jésus. Alors, première chose que je voulais dire, que fils, il ne faut pas l'entendre dans le sens, dans un sens un peu charnel. Bien sûr que pour Dieu qui est hors de la matière, qui est pur esprit, on ne peut pas l'entendre d'une manière charnelle. Et ça, c'est souvent une difficulté dans le dialogue avec des musulmans. Dès qu'on parle de fils de Dieu, ils ferment le rideau en disant « mais c'est pas possible à comprendre ça ». Du coup, vous avez plusieurs dieux, du coup, c'est... voilà. Mais ça, c'est, derrière cette idée, c'est que c'est concevoir la filiation de manière trop charnelle, on pourrait dire. Alors, dans la Bible, quand on dit « fils de », ça ne veut pas dire être forcément le père biologique de quelqu'un. Je vous prends quelques exemples. Être fils de prophète, ça ne veut pas dire que notre papa était prophète. Ça veut dire qu'on appartient à l'ordre des prophètes. Ou de dire qu'on est fils des chantres, ce n'est pas non plus que notre papa était chantre. C'est simplement qu'on fait partie de la corporation des chantres, on pourrait dire. Ou quand on dit de Barnabé dans les Actes des Apôtres qu'il est fils d'exhortation, son papa c'est pas exhortation, mais ou alors quand on dit que Jacques et c'est Jésus qui le dit, Jacques et Jean qui sont les fils du tonnerre, voilà. Alors l'expression fils de, déjà c'est important de voir que c'est pas forcément une filiation biologique. Et il n'est pas question de procréation. Ou alors, quelquefois, certains disent, dans le Coran, on mentionne le Père, le Fils et Marie. Et ce n'est pas ça la Trinité. Comme si, alors, mais ça nous renverrait à la mythologie grecque, Dieu qui s'est uni à Marie et puis ils ont eu un enfant. Ça, c'est la mythologie grecque, ce n'est pas la religion catholique. Enlever un peu cette idée de filiation à un niveau trop biologique. D'ailleurs, quand vous dites le credo, c'est intéressant de reprendre les phrases du credo. Et souvent, quand je dialogue ou j'essaie de dialoguer avec un musulman, souvent j'essaie de reprendre comme c'est dit dans le credo, tout simplement. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière. La lumière née de la lumière, ça nous dit vraiment une autre forme de génération. C'est pas vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait. Voilà. Donc, dire de Jésus qu'il est fils de Dieu, c'est pas un engendrement biologique, bien évidemment. C'est nous dire que Jésus est Dieu, d'abord. Et alors, on garde cette appellation de Père et de Fils, parce que c'est Jésus lui-même qui emploie ces expressions dans l'Évangile. Mais ce qui est intéressant, c'est des concepts relatifs, le Père et le Fils. On n'est Père qu'à partir du moment où on a un Fils. Et du coup... Après, dans la théologie de la Trinité, on dit que les personnes de la Trinité, alors ça ne fait pas très poétique, mais ce sont des relations subsistantes. Une autre manière de le dire, c'est de dire que le Père, c'est Dieu qui se donne complètement, et le Fils, c'est Dieu qui se reçoit complètement. Alors, du coup, ça nous sort un peu de cette idée de filiation... Voilà, et c'est simultané le fait de se donner et de se recevoir. Le Père n'a pas précédé le Fils, voilà. Et parce que c'est vraiment une relation qui caractérise les personnes divines, et c'est pour ça que la relation aussi pour nous chrétiens est quelque chose de très important. C'est pour ça aussi que pour nous, Dieu, c'est pas quelqu'un assis sur son trône, voilà, et puis très généreux vis-à-vis des hommes. C'est pas ça, Dieu. Pour nous, chrétiens, Dieu, c'est un mystère de trois personnes qui sont en relation les unes avec les autres et qui nous appellent à entrer justement dans ces relations, à entrer dans la famille de Dieu quelque part. C'est parce que vous sentez que l'idée qu'on se fait de l'amour, c'est complètement différent. Si Dieu est un être solitaire, bon, c'est quelqu'un de très généreux, mais il n'a rien à recevoir de nous, ou nos courbettes, ou voilà. Mais ce n'est pas du tout ça. L'amour, pour nous, c'est important. L'amour, ce n'est pas seulement donner, c'est aussi savoir recevoir. C'est être en relation. Sinon, je donne, mais je ne m'implique pas vraiment avec l'autre. Vous sentez que derrière ça... Alors, on n'aurait pas découvert tout seul le mystère de la Trinité, mais une fois que ça nous est révélé, on se dit, évidemment, ça peut être que comme ça. Alors, dans l'Ancien Testament, peut-être c'est une deuxième idée, c'est la signification de fils de Dieu. Fils de Dieu peut être pris dans des sens assez différents dans l'Ancien Testament. Vous le trouvez par exemple, c'est synthétisé dans le numéro 441 dans le catéchisme de l'Église catholique, si vous voulez. Vous pouvez vérifier. Et si je dis des bêtises, vous pouvez me corriger, bien sûr. Mais, alors, 441 dans le catéchisme. Fils de Dieu, quelquefois, c'est les hommes, tout simplement, qu'on appelle fils de Dieu. Les hommes, les personnes humaines. Par exemple, dans Malachie, chapitre 2, verset 10, « N'avons-nous pas tous un seul Père ? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ?» Fils de Dieu, dans ce sens-là, c'est parce qu'on a été créé par Dieu. Donc, dans ce sens-là, on dit qu'on est fils de Dieu. Un autre sens, c'est les anges. Vous vous rappelez le début du livre de Job ? Je vous cite le verset 6 du chapitre 1. Le jour où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur, le Satan, l'adversaire, lui aussi, vint parmi eux. Le jour où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur. Donc là, on parle des anges. C'est fils de Dieu, mais on parle des anges. Du coup, d'ailleurs, les témoins de Jéhovah s'appuient là-dessus pour dire non, Jésus, c'est un super ange. Il n'est pas Dieu, mais... Voilà. On l'a lu, je crois, hier ou avant-hier, je ne sais plus, au début de l'Épître aux Hébreux. Avant-hier, c'était le baptême. Bon, je ne sais plus. Enfin, au chapitre 1 de l'Épître aux Hébreux, voilà ce qu'il nous dit, qu'il y a vraiment un saut de qualité entre Jésus et les anges. Il est devenu bien supérieur aux anges dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclarera-t-il jamais un ange, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré, ou encore, moi je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Donc, fils de Dieu, ça peut signifier ange, mais Jésus, c'est plus qu'un ange. D'ailleurs, il s'est incarné. Voilà. Alors, fils de Dieu, c'est dans l'Ancien Testament, c'est tous ceux qui sont liés à Dieu par une alliance. Ça signifie une appartenance à Dieu. Alors, Israël, alors quelquefois, c'est le peuple de Dieu qui est appelé fils de Dieu. Le peuple de l'Alliance. Voilà. Donc, dans ce sens-là, ça signifie un rapport privilégié, une relation privilégiée avec Dieu qui dépasse cette relation que Dieu a avec ses créatures. Donc, on voit déjà, il y a un certain nombre de sens de fils de Dieu. Alors, je peux vous citer Benoît XVI, puisque pensons à lui d'une manière particulière, là, de ces derniers jours. Vous pouvez aller voir vous pouvez lire, je vais le citer à diverses reprises, son livre sur Jésus de Nazareth. Hein, donc, c'est très bien. Et là, voilà, par exemple, voilà ce qu'il dit dans son livre. C'est dans le tome 1 du baptême à la transfiguration. À la transfiguration. Voilà ce que dit Benoît XVI. L'expression « fils de Dieu » provient de la théologie politique de l'Orient ancien. En Égypte comme à Babylone, on donnait au roi le titre de « fils de Dieu ». Le rituel de l'accession au trône était considéré comme un engendrement qui le fait « fils de Dieu ». En Égypte, cet engendrement était sans doute compris au sens d'une mystérieuse origine divine. Tandis qu'à Babylone, à ce qu'il semble, on le comprenait déjà de façon beaucoup plus sobre, comme un acte juridique, une adoption divine. Donc, Israël va adopter cette manière de dire, de fils de Dieu, cette représentation, mais en l'adaptant un peu, voilà. Donc, fils de Dieu, dans ce cas-là, il y a le psaume qui dit « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré », ça, c'est une intronisation messianique. Dans le baptême, il peut y avoir trois sens. « Ceci est mon fils bien-aimé », ça peut être justement une intronisation messianique, ça peut être le serviteur et ça peut être le fils de Dieu, à proprement parler, de la même nature que le Père. Donc, voilà. Fils de Dieu, ça peut être encore le Messie. Donc, c'est dans le psaume 2, justement, cette intronisation messianique. Et alors, il y a le Fils de Dieu, alors qui désigne la relation unique qui lie Jésus à son Père. Donc, il partage la même nature que le Père. Et donc, à ce moment-là, ça insiste sur la nature divine de Jésus. Et il y a souvent à l'article défini le Fils. Et on ajoute le Fils unique pour montrer qu'il n'y en a pas. C'est une relation tout à fait unique. Alors, tout ça pour dire que le Fils de Dieu, on peut l'entendre de diverses manières. Et quand les apôtres entendaient cette expression que Jésus était Fils de Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a derrière l'expression, hein ? Derrière les mots, on peut mettre différentes significations. Et petit à petit, alors peut-être qu'ils sont passés d'un sens à un autre en disant non, là c'est plus que qu'une intronisation, c'est plus que le Messie, c'est voilà. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Hein. Je pense que c'est important de se remettre un petit peu dans la situation. Nous, on est habitué à savoir que Jésus est le Fils de Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a derrière les mots ça c'est. Et vous, donc c'est le Fils unique et il y a. C'est un détail, mais quand Jésus, par exemple, c'est à Marie-Madeleine, quand il apparaît à Marie-Madeleine, il lui dit « Va dire à mes frères, je monte vers mon Père et votre Père ». Il ne dit pas « Je monte vers notre Père », non, « Mon Père et votre Père ». Ou même le « Notre Père », il ne prend pas la main de ses apôtres et « Notre Père », non, il dit « Quand vous priez, dites « Notre Père ». Mais Jésus ne se met pas dans le même lot exactement, parce qu'il y a une différence quand même. Alors nous sommes appelés être fils dans le Fils, on est frères de Jésus, mais bon, il y a une différence de nature quand même. On n'est pas Dieu.
Je pensais que quand on disait notre Père, Jésus le disait nous aussi.
Alors d'une certaine manière, oui, mais en ayant toujours conscience que nous, on n'est pas fils de Dieu par nature. L'avez remarqué, je pense. Mais voilà, mon Père et votre Père, de pas non plus garder quand même une certaine distance. Alors, il y a à la fois la proximité de Jésus, il s'est fait infiniment proche, mais en même temps, on joue pas dans la même cour, quelque part. Donc, ça, c'était les différents sens de fils de Dieu. Alors petit à petit les apôtres et tout ça vont avoir quelque chose de plus clair qui va se clarifier petit à petit. Et ce qui est intéressant, c'est Benoît XVI qui le dit, ça vous allez voir dans Saint Matthieu chapitre 16, juste avant la profession de foi de Pierre. Et que disent les gens? Qui suis-je pour... Alors ils disent ou grand prophète ou Élie ou je ne sais plus très bien. Mais Jésus, il classe Jésus dans la catégorie des prophètes. Donc dans ce sens, on voit qu'ils ne sont pas encore au niveau fils de Dieu, hein, les gens. Ils ne voient pas la nouveauté qui est apportée par Jésus. Et alors c'est une vraie révélation. C'est ça qui est intéressant. Ce troisième point, c'est de montrer que découvrir que Jésus est fils de Dieu, ça ne se fait pas en réfléchissant à son bureau, etc. Ça vient vraiment d'une révélation. Hein. C'est ce que dit Jésus à Pierre. « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Hein, ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est mon Père qui t'a révélé ça. » Et quand Saint Paul fera une expérience un peu analogue. Il en parle dans l'Épître aux Galates. Voilà ce qu'il dit, c'est dans le premier chapitre. « Quand celui qui, dès le sein maternel, m'a mis à part et appelé par sa grâce, daigna révéler en moi son Fils pour que je l'annonce aux païens. » Donc, il a vraiment une révélation. C'est quelque chose qui est... Fils de Dieu, encore une fois, on ne le trouve pas tout seul. C'est parce que Jésus l'a révélé. Vous vous rappelez de cette parole de Jésus dans l'Évangile? C'est au chapitre 11, entre autres, hein, mais il y a aussi dans Saint-Luc, mais Saint-Matthieu au chapitre 11. « Père Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange que tu as cachée aux sages et aux savants, tu l'as révélée aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils. » Et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, c'est vraiment la divinité de Jésus, on ne la découvre pas par soi-même. C'est vraiment objet de la foi, la divinité de Jésus. Quatrième point, toujours dans cette première partie, il y a deux moments particuliers, assez solennels, où est révélé le Jésus, fils de Dieu. Il y a le récit du baptême qu'on a célébré il y a 3 jours. Et puis le récit de la transfiguration. Peut-être que je saute des petites choses, sinon on ne voit pas. Voilà, dans ces deux récits, on voit que, voilà, il y a quelque chose de plus qu'un simple homme dans le baptême, où il y a cette révélation avec le Père et l'Esprit Saint, dans la transfiguration, où il y a cette lumière, etc. La transfiguration, elle survient juste après la profession de foi de Pierre, hein, dans tous les évangiles. Hein, il y a Saint Pierre qui professe sa foi, et quelques temps après, donc c'est la transfiguration, comme pour confirmer cette profession de foi. Et en même temps, c'est lié à la passion dans tous les cas, mais bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Alors, il y a ces deux grands moments, et puis il y a d'autres moments où les apôtres font l'expérience, justement, de la divinité de Jésus. Il y a la pêche miraculeuse, par exemple, dans Saint-Luc, au chapitre 5. Vous vous rappelez, les apôtres ont peiné toute la nuit, ils n'ont rien pris. Et puis Jésus, qui n'est pas pêcheur de métier, leur dit, avancez au large, duc in altum, et puis jetez les filets, et puis sur ton ordre, on va le faire. Et puis, à un certain moment... Ils prennent une telle quantité de poissons que Pierre est saisi d'effroi. Je cite Benoît XVI. Ils tombent aux pieds de Jésus en adoration et disent « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Dans ce qui est arrivé, il a reconnu le pouvoir de Dieu lui-même agissant à travers la parole de Jésus. Et cette rencontre directe avec le Dieu vivant, la personne de Jésus, le bouleverse au plus profond de lui-même. Voilà. Je parle du tremendum divin. Voilà, c'est... Et après, il parle de Seigneur. Curios, Seigneur, c'est le nom qui était que les Juifs prenaient pour éviter le nom imprononçable. Voilà, donc. Ah ben oui. Au départ, avant le départ en Bac, Pierre appelait Jésus Epistata, c'est-à-dire maître, rabbi. Maintenant, après cette expérience, il l'appelle Curios, Seigneur. Alors ça, c'est un épisode, la pêche miraculeuse. Il y a aussi quand Jésus marche sur les eaux. Alors là, vous trouvez tout ça dans le livre de Benoît XVI aussi, où il explique bien. Alors, ils sont impressionnés surtout de cette apparition de Jésus et de qu'il marche sur l'eau, qui est le domaine des forces mauvaises, hein, pour les Juifs. J'ai pas trop cité les miracles. On pourrait parler de tous les miracles que Jésus a fait, mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de saints ou même des prophètes qui ont fait des miracles. C'est pas forcément exclusif, disons, de Jésus de faire des miracles. Hein. Il peut donner ce charisme de faire des miracles. Mais là, c'est des choses qui sont plus directement liées à ça, justement, où les apôtres ont découvert que Jésus était Dieu. Alors, les miracles y ont contribué aussi, hein, mais il y a eu des moments plus particulièrement forts. Voilà. Ça va, vous suivez ? Alors, on arrive à la deuxième partie. C'est alors la première partie, c'était vu du côté des disciples, petit à petit qui découvrent que Jésus n'est pas seulement un homme, même plus qu'un homme extraordinaire, il est vraiment fils de Dieu. Après, la deuxième partie, c'est les déclarations de Jésus qui disent qu'il est Dieu et qui conduisent à sa mort. Je peux déjà le prendre. Derrière ça, il y a la conscience. Quelle est conscience Jésus avait de sa divinité ? Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse, c'est un sujet assez moderne, hein, les pères de l'Église, ils ne se cassent pas trop la tête avec ça. Mais, du coup, de voir, bon, on le voit clairement déjà au moment de quand Marie et Joseph le retrouvent au temple, ne savez-vous pas que je vais être aux affaires de mon père, donc on voit déjà... En même temps, comme homme, Jésus a dû apprendre des choses. Et en même temps, il y a une tradition théologique qui dit que déjà, il avait la vision de Dieu, ce qu'on appelle la vision béatifique. Donc, il sait qu'il est Dieu. Mais en même temps, de respecter le rythme de sa croissance, de son humanité, en ayant contact avec l'Écriture, etc., et du coup, on voit que Jésus a conscience de sa divinité, qu'il n'attend pas sa vie publique pour avoir conscience de sa divinité. Bon, je ne développe pas davantage. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que il y a cette appellation que Jésus reprend assez fréquemment, « Je suis ». Alors, notamment dans l'évangile de Saint Jean, mais pas seulement. Je vous le... Alors, ce « je suis », hein, ça se réfère notamment au récit du buisson ardent où Jésus dévoile son nom. Alors, il y a d'abord le nom imprononçable et après, Dieu l'explicite, « je suis celui qui suis, je suis, je suis ». Alors, souvent, d'ailleurs, dans la Bible, ce « je suis » est écrit en majuscule. Alors, je vous cite quelques passages. Par exemple, au chapitre 8 de Saint Jean, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ou alors un peu plus loin. Ah oui, il parle d'Abraham. Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Les Juifs disent, mais t'es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? Et alors Jésus qui dit, Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, alors tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? Jésus leur répondit, amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Donc c'est assez clair pour les Juifs. Et, bon, et dans cette affirmation de Jésus, ils comprennent bien. Et je trouve que ce qui est très intéressant, c'est la réaction des Juifs. On voit qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Ce n'était pas un super-homme, Jésus. C'était vraiment le Fils de Dieu. Ou un autre passage, aussi quand Jésus marche sur les eaux, à la suite de la première multiplication des pains, les disciples poussent des cris et sont bouleversés. Mais Jésus s'adresse à eux avec bonté, confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors dans ce c'est moi, on peut dire, bon, oui c'est moi, mais en fait non, sous la plume des, c'est pas simplement c'est moi, c'est je suis. C'est vraiment... juste une petite blague, je ne sais pas si vous connaissez Jean 23. Jean 23, un jour, quelqu'un fait son portrait. Et Jean 23 est un peu... voilà. Et du coup, il écrit les références. Marc 6,50, en bas du portrait. Alors, l'artiste est très, très honoré d'avoir une petite griffe du pape sur son tableau. Et puis après, il va voir dans sa Bible, « N'ayez pas peur, c'est moi. » Voilà. Alors, ça, vous pouvez retrouver, pas la blague, mais tout un commentaire de Benoît XVI qui montre combien c'est très intéressant dans les pages 380 de son premier livre, ça vous le trouvez aussi sur Internet, mais voilà, de voir que vraiment cette appellation « je suis », c'est... voilà. Après, au-delà de ces appellations, c'est des actes caractéristiques de Dieu que Jésus s'approprie. Déjà, quand Jésus dit « Amen, amen, je vous le dis », il se pose vraiment comme celui qui a une autorité. Parce que dans l'Ancien Testament, on disait « Ainsi parle l'Éternel » ou « Oracle du Seigneur ». Et lui se permet de dire « Amen, amen, je vous dis ». Donc il se pose vraiment comme celui qui a autorité. Ce qui ne devait pas échapper tellement aux Juifs. Soit ils pensaient qu'il était quelqu'un de très prétentieux, hein, mais... Ou autre chose, par exemple, quand Jésus s'attribue la figure du berger. En fait, ceux qui l'écoutaient, ils savaient que souvent, la figure du berger, ça désignait Dieu lui-même. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer, etc. Donc, quand Jésus se présente comme le berger, il dit, tiens, lui, quand même. Ou alors, ça c'est dès le début de l'évangile, hein, c'est au chapitre 2 de saint Marc, quand Jésus affirme avoir le pouvoir de pardonner les péchés. Alors, la réaction des Juifs qui sont là, c'est le paralytique, hein, qu'on descend par le toit, et puis... mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alors les scribes, Silla, raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-ci parle-t-il ainsi? Il blasphème, qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Et alors Jésus, pour donner un signe du pouvoir qu'il a de pardonner les péchés, il lui dit, lève-toi, prends dans mon cœur et marche. Voilà. Mais ça, c'est un pouvoir caractéristique de Dieu, de pouvoir pardonner les péchés. Autre pouvoir que Jésus revendique pour lui, le pouvoir de juger. Alors on le trouve dans Saint Jean au chapitre 5. Le Père a donné au Fils tout pouvoir pour juger. Il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Nous, on a, c'est Saint Jacques qui nous dit, pour qui te prends-tu donc, toi qui juges ton frère ? Donc, c'est vraiment quelque chose qui, pour les Juifs, est rapporté à Dieu. Jésus aussi s'attribue le pouvoir de la vie. Comme le Père en effet a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Ce n'est pas simplement une vie reçue. C'est... en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et devant la tombe de Lazare, à Sainte-Marthe, il dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Et Jésus s'attribue aussi la même puissance que celle du Père. Amen, amen, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Donc, on voit que Jésus, non seulement il dit « je suis », et du coup, ce qui était assez choquant pour les gens qui l'écoutaient, mais en plus, il s'attribue des actions qui reviennent vraiment à Dieu. Une troisième série de choses que Jésus affirme, c'est quand il parle de sa relation avec son Père. Alors, on le voit déjà entre... on voit que cette relation tout à fait unique qu'il a avec le Père, dont il parle déjà à Joseph et Marie quand il le retrouve au temple, mais quand on le voit aussi à la croix, Père, entre tes mains, je remets mon esprit, ou quand il chasse les marchands du temple, ne faites plus de la maison de mon Père une maison de trafic, ou quand il promet le Saint-Esprit, je prierai mon Père, il vous donnera un autre consolateur. Alors, il se désigne lui-même comme le Fils unique de Dieu. Alors, je vais vous citer encore le tout début de l'Épître aux Hébreux, qui reprend ce qui est dit au début de l'Évangile de Saint Jean, « Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. » Et dans l'Épître aux Hébreux, il est dit, à bien des reprises et de bien des manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Voilà. Enfin, je ne vais pas vous prendre toutes les citations, Saint Paul qui parle qu'il est l'image du Dieu invisible, etc. Ou Jésus, encore, alors ça c'est au chapitre 10, le Père et moi, nous sommes un. Vous remémorez un petit peu les différentes catégories de fils de Dieu, et c'est Jésus affirme vraiment cette identité avec son Père, cette unité avec le Père. Et les Juifs le comprennent bien quand Jésus dit « Le Père et moi, nous sommes un », il prit des pierres pour lapider Jésus. Ou encore, quand dans le discours après la scène, c'est Philippe qui pose la question « Montre-nous le Père ». Jésus qui répond « Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. » Ou encore la prière sacerdotale au chapitre 17 de Saint Jean. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Qu'ils soient un comme nous-mêmes, que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un comme nous sommes un. Voilà. Alors, il y a toutes ces affirmations de Jésus où petit à petit, on voit un petit peu mieux comment la relation que Jésus avait comme fils de Dieu qu'il a avec son Père. Et puis, pour terminer dans toute cette partie, c'est les affirmations pendant sa passion. Dans l'évangile de Saint Jean, c'est très caractéristique. D'ailleurs, les dernières semaines du carême, on lit l'évangile de Saint Jean et des passages qui montrent combien ils avaient envie de supprimer Jésus précisément parce qu'il se faisait Dieu. Déjà au chapitre 5 de Saint Jean. De plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer car non seulement ils ne respectaient pas le sabbat, mais encore ils disaient que Dieu était son propre Père et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Donc les Juifs, ils comprennent bien. Hein, voilà. Et alors là, je peux vous lire Benoît XVI encore. Le procès de Jésus devant le Sanhédrin montre ce qui scandalisait vraiment chez lui. Ce n'était pas de l'ordre du messianisme politique qui existait chez Barabbas et plus tard chez Barcoba. Ce qui scandalisait chez Jésus, c'est ce que nous avons évoqué lors du dialogue du rabbin Neusner avec le Jésus du sermon sur la montagne. C'est qu'il semble se placer sur un pied d'égalité avec le Dieu vivant. C'est cela que la foi strictement monothéiste des Juifs ne pouvait admettre. Voilà, donc pendant la Passion, les choses se précisent. Même Pilate, relève Benoît XVI, sentait bien qu'en réalité, ce n'était pas un procès d'ordre politique. Mais voilà, il s'agit, c'est vraiment de quelque chose de plus. Du coup, il y a les questions pendant le... Alors, Saint-Luc, tu es donc le Fils de Dieu. Vous dites vous-même que je le suis, il dira alors. Pourquoi nous faut-il encore un témoignage? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. Et donc, il décide la mort de Jésus. On trouve ça dans tous les évangiles. C'est sur cette appellation de Fils de Dieu. Et ils le disent explicitement à Pilate. Donc, dans Saint Jean, nous avons une loi et d'après cette loi, il doit mourir car il s'est dit le Fils de Dieu. Donc, c'est vraiment sur parce qu'il s'est proclamé Fils de Dieu que Jésus a été mis à mort. Donc, d'un côté, donc la première partie, c'était plus voir comment les apôtres, petit à petit, ça s'est précisé leur idée de Jésus comme Fils de Dieu. Et puis après, la deuxième, les affirmations de Jésus qui sont allées en se précisant aussi et qui ont fait qu'ils l'ont conduit jusqu'à la mort. Alors, maintenant, troisième partie. Ça va ? Alors, c'est la résurrection, ça marque vraiment un avant et un après. Raniero Cantalamessa dit que, bon, vendredi saint, ça nous montre l'amour de Jésus pour nous. Il n'y a pas de doute, donner sa vie sur la croix, accepter de souffrir, ça nous aime. Mais s'il avait été seulement sincère, s'il n'était pas ressuscité, bon, il aurait peut-être été très généreux et tout ça, mais s'il s'était trompé. Et justement, la résurrection, c'est vraiment le moment où il y a une confirmation de tout ce que Jésus a dit et fait auparavant. Pour ça, donc cette troisième partie, c'est la résurrection, ça nous montre à la fois que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Et à la fois, c'est à partir de ce moment-là qu'on parle vraiment de Jésus comme Seigneur. Alors, c'est un pasteur qui dit « Ce sont les deux noms relationnels de Jésus. » Alors, Fils de Dieu, c'est la relation de Jésus avec son Père. Et Seigneur, c'est la relation de Jésus vis-à-vis des créatures. Donc, il y a la seigneurie du Christ. Alors, je parle d'abord de Jésus, Fils de Dieu, où ça se précise au moment de la résurrection. Même s'il l'avait déclaré, même si petit à petit ça s'était éclairci pour les apôtres, mais C'est la résurrection, ça, ça, il y a vraiment quelque chose de particulier. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17, verset 31, vous avez cette expression « Dieu l'a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d'entre les morts ». C'est « nous a donné une preuve certaine », c'est notre traduction. En le ressuscitant d'entre les morts. Jésus n'était pas seulement quelqu'un de bon et qui a donné tout pour nous. En plus, c'était vrai ce qu'il nous dit. Et du coup, c'est important parce que ça nous confirme que quand il s'affirmait « je suis », quand il affirmait toutes ces affirmations avant, elles ont leur saut de vérité par la résurrection, pour dire. Hein, tout ce qu'il a dit en se présentant comme fils de Dieu, s'il n'était pas ressuscité, on se dit « bon, peut-être qu'il s'était trompé. Voilà. » Mais là, non, il n'y a pas de doute possible pour les... Et alors, du coup, c'est alors, donc, par la résurrection, Jésus vraiment est déclaré... Enfin, ça, le fait qu'il soit fils de Dieu, ça saute davantage aux yeux, et aussi qu'il est Seigneur. Un Seigneur, c'est vraiment une appellation, on pourrait dire, de Jésus qui fleurit surtout après sa résurrection. Alors, il y a l'hymne de saint Paul aux Philippiens, c'est une hymne qui devait déjà exister, que saint Paul reprend, hein, où il dit que, voilà, c'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il parle de Jésus Seigneur. Et donc, Seigneur, ça veut dire vraiment qu'il a la domination sur tous. C'est pas juste un beau titre. C'est, voilà, c'est ce que chantent les cantiques de l'Apocalypse, souvent, quand. Voilà, mais. Et qu'il passe dans cette. Dans cette position, on pourrait dire. Et puis, dernière partie, les conséquences du fait que Jésus soit fils de Dieu, les conséquences pour nous. Alors, donc, je vais donner trois conséquences. Qu'est-ce que je mange ? Oui, non, quatre conséquences. Enfin, après, c'est, voilà, on peut les présenter autrement. Mais la première chose, c'est que donc nous sommes invités à adorer Jésus, au sens strict, pas simplement à l'aimer beaucoup, mais à le considérer comme notre Dieu et à nous comporter en conséquence vis-à-vis de lui. Et vous vous rappelez, à la fin du lavement des pieds, Jésus dit à ses apôtres, « Vous m'appelez maître et Seigneur, vous avez raison. » Car vraiment, je le suis. Et du coup, dans l'Apocalypse aussi, donc après la résurrection, on parle de l'agneau immolé qui est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et du coup, c'est vraiment cette reconnaissance du mystère divin de Jésus, et qui est, alors comme le dit le catéchisme numéro 448, dans la rencontre avec Jésus ressuscité, donc la reconnaissance du mystère divin de Jésus devient adoration. Hein, l'expression de saint Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Il prend alors une connotation d'amour et d'affection qui va rester le propre de la tradition chrétienne, c'est le Seigneur. Ça, c'est saint Jean qui, vous vous rappelez, la pêche après la résurrection. Ils ont l'air d'être un peu désœuvrés. Allez, on va à toi avec. Et puis d'un seul coup, ils voient quelqu'un qui leur dit de jeter le filet. Et ils prennent des tas de poissons. Et alors, saint Jean, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Mais. Donc, ça se, au sens fort, hein, c'est le Fils de Dieu. Donc cette adoration à laquelle nous sommes invités, pas seulement l'adoration, mais aussi l'obéissance. Dans le discours après la scène, Jésus dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande ». Alors on est des amis, mais en même temps, on n'est pas exactement sur le même plan. Hein, donc, nous sommes invités à obéir à Jésus. Et après sa résurrection, il donne des ordres, entre guillemets. Il y a le mandat missionnaire, hein, ce qu'on appelle le mandat missionnaire à la fin de l'évangile de Saint Matthieu en particulier. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, etc. Donc, vraiment, il y a une obéissance à Jésus Seigneur. Et cette obéissance à Jésus Seigneur ne nous rend pas esclaves, mais au contraire nous rend libres. Je vous lis le numéro 450 du catéchisme. Dès le commencement de l'histoire chrétienne, l'affirmation de la seigneurie de Jésus sur le monde et sur l'histoire signifie aussi la reconnaissance que l'homme ne doit soumettre sa liberté personnelle, de façon absolue, à aucun pouvoir terrestre, mais seulement à Dieu le Père et au Seigneur Jésus-Christ. César n'est pas le Seigneur. L'Église croit que la clé, le centre et la fin de toute l'histoire humaine se trouvent en son Seigneur et Maître. Donc les conséquences, l'adoration, l'obéissance, la prière, hein, c'est, qui est, le titre de Seigneur, ça marque beaucoup la prière chrétienne, le Seigneur soit avec vous, par Jésus-Christ notre Seigneur, on le trouve tout le temps dans la prière. Hein. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Et puis, quatrième conséquence, justement, du fait que Jésus soit fils de Dieu, c'est qu'il nous appelle à être fils en lui. Fils, il y a ce beau, ce beau passage de Saint Jean dans sa première lettre. Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur, est pur. Donc nous sommes vraiment les enfants de Dieu, et nous est donné l'esprit pour dire « Abba, Père ». On a vraiment notre place dans la famille. Alors, peut-être que je peux terminer avec ce passage de Saint Paul aux Romains qui montre aussi comment on est, par Jésus, on est introduit dans la famille de Dieu, en quelque sorte. Voilà, vous connaissez bien, c'est au chapitre 8, les versets 28 et suivants. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ce que d'avance ils connaissaient, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier né d'une multitude de frères. Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout ? Qui accusera ce que Dieu a choisi ? Dieu est celui qui rend juste. Alors qui pourra condamner ? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Alors qui pourra nous séparer de l'amour du Christ ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive ? Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ de Jésus, notre Seigneur. Voilà. Alors une petite conclusion. Mais je pense que le but un peu de cette halte spirituelle, c'est de nous aider à entrer un peu davantage dans le mystère de notre foi, hein, qui est vraiment caractéristique de nous chrétiens qui croyons que Jésus est fils de Dieu. Et du coup, de voir vraiment que ça... comme je le disais au début, ça nous éclaire aussi sur Dieu qui est l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est amour? Alors quand on découvre qu'il a un fils qu'il a donné pour nous et que ce fils, ils sont dans une relation d'échange d'amour depuis de toute éternité, ben ça nous aide à entrer davantage dans le mystère de Dieu. Et du coup, ça a deux conséquences. C'est aussi que si on croit vraiment que Jésus est fils de Dieu et que ce qu'il nous a dit dans l'Évangile, ce n'est pas simplement un sage très connu, mais que c'est beaucoup plus, c'est le fils de Dieu, ben, du coup, c'est prendre au sérieux davantage les paroles que Jésus nous a dites. Hein, Jésus, c'est ce que dit saint Pierre, là, quand c'est à la fin du discours du pain de vie dans saint Jean, tu as les paroles de la vie éternelle. Alors du coup, ça nous renvoie, si on croit davantage que Jésus est fils de Dieu, ça nous renvoie aussi à accueillir davantage sa parole, comme la parole de, non pas d'un grand sage, mais beaucoup plus du Fils de Dieu lui-même, hein, quand il nous annonce les béatitudes, l'amour des ennemis, plein de choses. Et puis, autre conséquence, peut-être si nous croyons davantage que Jésus est Fils de Dieu, ben peut-être d'en témoigner, alors par notre comportement d'abord, mais aussi par notre parole, d'être témoin justement, parce que je pense que c'est important de réaliser que ben, c'est une chance de pouvoir avoir découvert Jésus comme notre Seigneur. C'est Jésus qui dit à Pierre, à quel moment je suis. En tout cas, au chapitre 16 de saint Matthieu, il le dit aussi, mais heureux es-tu, hein, parce que ça t'a été révélé. Peut-être qu'il y en a d'autres, ça ne leur a pas été révélé. Alors toi, tu as la grâce de la foi. Il y a des gens qui voudraient bien croire, et puis ça ne se fait pas. Et puis, mais du coup, cette foi, elle suppose d'être aussi entretenue, d'être vécue aussi pour pouvoir grandir. Voilà grosso modo ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez plein de questions?
On dit que la foi est un don de Dieu. Certains l'ont et d'autres n'ont pas. Donc ça m'a toujours posé question.
Oui. Et en même temps, tout à fait. Et en même temps, la foi, c'est saint Paul aussi qui dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et à un moment, il dit, mais alors qui va proclamer s'il n'y a personne qui en parle? Alors du coup, bien sûr que c'est un don et Dieu veut avoir besoin de nous, il pourrait se passer de nous, il pourrait. Mais on voit bien que Dieu, il est. Alors j'insiste beaucoup sur le thème des relations parce que c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de notre foi chrétienne. Mais Dieu aime bien les relations. Dans la prière d'intercession, il aime bien qu'on prie les uns pour les autres. Bien sûr, on pourrait individuellement être lié à Dieu et puis demander ce dont on a besoin. Mais Dieu, il préfère que les prières qui se croisent. Et de même, bien sûr que Dieu pourrait se révéler à chacun. Mais Dieu aime passer par les uns et les autres. Hein, parce que Dieu, c'est pas. Nous, on a peut-être tendance, depuis quelques siècles, à avoir une vision un peu trop individualiste de notre foi. Mais là, on ampute quelque chose de notre foi chrétienne. Parce que notre foi chrétienne, ce n'est pas une foi solitaire, c'est une foi avec d'autres. Et on voit bien que souvent, certains qui découvrent Jésus, c'est par des témoignages aussi de d'autres, etc. Il y a des passages très très beaux de Paul VI, on remonte un peu dans le temps. Mais un document qui est toujours splendide, c'est Evangelii Nuntiandi, c'est paru en 75, je crois, où il dit, voilà, l'importance du témoignage, à un moment c'est très beau, il dit, mais quand les gens voient vivre quelqu'un, ça leur pose des questions, pourquoi il vit comme ça? Et petit à petit, alors vient le moment de l'annonce explicite, parce que leur comportement et tout ça nous pose question et nous donne envie et... Voilà, alors ça nous renvoie aussi à notre responsabilité. Alors, il ne s'agit pas de nous écraser ou tout ça, mais C'est le pape François qui aime parler de disciples missionnaires. Hein, il ne dit pas, non, on n'est pas disciples, missionnaires, ça fait partie de notre ADN. Hein, donc, on ne peut pas être disciple sans être missionnaire, pour dire que voilà, il y a cette dimension de relation qui est vraiment très très importante. On le voit bien dans notre foi, et puis on se soutient, on s'aide, etc. Mais ça fait partie quelque part aussi des relations d'amour que Dieu veut établir avec lui, mais entre nous aussi.
Vous savez que je rejoins ma voisine. On a fait parfois une fois, il y avait un monsieur qui se dit non croyant, et il dit Dieu il sélectionne, parce que il dit en fait, moi, quand on voit les témoignages et on a la grâce, ce que vous dites, hein, il dit c'est la grâce, ils sont comme ça, changés, convertis, et il dit puis moi en fait il n'y a rien qui a changé. J'ai fait le parcours, mais il n'y a rien qui a changé. Alors, il fallait pas donner une réponse, mais je disais, c'est parce que tu gardes toujours, t'as du mal à lâcher prise, quoi. Tu te mets une carapace, mais c'est compliqué de faire d'expliquer ça.
C'est compliqué,
fait,
oui.
Alors il dit, en fait, c'est un Dieu qui sélectionne, quoi.
Alors, c'est un Dieu qui sélectionne tout le monde. Parce que, ça c'est clair, Dieu veut sauver tout le monde. Et Jésus est venu pour tous, et il n'a pas voulu faire de sélection, justement. Ça, c'est clair. C'est absolument clair, hein, Dieu veut sauver tous les hommes. Après, c'est très mystérieux aussi, et puis il ne s'agit pas de culpabiliser forcément les gens en disant « c'est que tu as un problème, si tu n'as pas la foi, c'est que... voilà. » Je ne sais pas, c'est peut-être pas le moment aujourd'hui, c'est peut-être... Bon, après... En tout cas, tous, ils se retrouveront devant Jésus tôt ou tard. Si ce n'est pas pendant cette vie, ça sera au moment de leur mort. Et c'est devant Jésus qu'on ne peut être sauvé que par Jésus. Hein, donc, mais Jésus veut sauver tous les hommes. Alors, c'est lui qui peut faire la part des choses entre ce qui est notre mauvaise volonté ou notre bonne volonté, l'endurcissement du cœur. Bon, c'est lui qui... Alors, entre nous, on peut aussi se stimuler ou se titiller aussi pour se... De fait, on voit qu'on a nos angles morts et tout ça, même si bon, on croit en Jésus, mais il y a du chemin encore à faire pour chacun d'entre nous. Hein, mais...
C'est parfois difficile quand même, parce que parfois, quand vous dites de titiller, ça peut braquer aussi les gens. Hein.
Oui, oui, alors ça, c'est toute une question de prudence et de confier ça à Dieu après.
Et je pense à une phrase de saint Augustin à propos du cœur qui est fermé. Il disait reviens à ton cœur, car et de là à Dieu, parce que le chemin de ton cœur à Dieu est plus proche. Enfin, je ne sais plus exactement la phrase, mais c'était ça. J'avais lu cette phrase-là, mais voilà. Donc, c'est ouvrir son cœur, mais tout le monde ne le fait pas forcément, quoi, ne veut pas forcément ouvrir son cœur.
Oui.
Oui, mais quand on voit la conversion sympa, enfin voilà, il est déracé, et pour autour, il n'avait rien demandé. Et je me dis pourquoi ça arrive à certains, et puis comme voilà, des personnes qui. Non mais c'est ça, c'est.
Oui, il y a quelque chose de mystérieux, et puis il y a quelque chose de mystérieux. Savoir aussi, alors je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais toujours quand on est choisi par Dieu. Il nous aime personnellement, etc. Mais c'est toujours pour les autres. Hein? Comme Israël, c'est pas un peuple choisi aux dépens des autres. C'est un peuple choisi pour les autres. Et quand on est choisi, c'est toujours pour les autres. Et saint Paul, il était choisi pour les autres. Il s'est dit, il y a quelqu'un d'énergique là. Là, je remets une dose de plus pour que. Donc, mais on est choisi pour les autres aussi. Alors. Mais après, ça reste mystérieux. Alors, je dévie un peu, mais pourquoi Dieu guérit certaines personnes et pas d'autres ? Comment ? Après. Ben, on peut. Mais ça, c'est le secret de Dieu, justement, d'accepter ça, c'est peut-être aussi de casser quelque part quelque chose de notre tête où on veut que Dieu réponde à nos critères. Et Dieu, non. Il est libre de ses dons, Dieu. En tout cas, ça reste vrai que Dieu veut sauver tous les hommes. Et il veut qu'aucun ne se perde. Mais après, à quel moment ça va se faire, tout ça, ça... Et ça, c'est le secret de Dieu. C'est le secret de Dieu et puis la bonne ou mauvaise volonté de la personne. Mais c'est pas nous de juger, c'est lui qui est juge. Hein, le jugement fait partie des prérogatives divines. C'est pas nous. Nous, on ne sait pas.
C'est ce que j'ai répondu. Je dis nous, on réagit avec nos yeux, enfin notre cœur d'humain. Mais
ce qui est vrai, ce que vous disiez très justement, c'est aussi descendre dans son cœur. Parce que quelquefois, dans notre tête, ça nous met des blocages, ça nous bloque notre générosité. C'est Saint Paul, alors ça dépend des traductions, mais dans les Romains au chapitre 12, il dit ne brisez pas l'élan de votre générosité, mais laissez jaillir l'esprit. J'aime beaucoup cette phrase. Parce que quelquefois, on a des raisons intellectuelles qui nous bloquent plus qu'autre chose. Et du coup, on se fait des nœuds dans la tête et puis on n'avance pas. Quelquefois, il faut accepter, comme vous disiez aussi, de ne plus maîtriser. Et Saint Paul, de fait, son expérience, quand même, il a été mis à terre, aveugle. Il a dû, à ce moment-là, lui qui menait les choses, c'était vraiment quelqu'un qui menait les choses, il a dû se laisser conduire, il a dû... Alors que Ananie n'était pas quand même... Mais non, Seigneur, t'as dû te tromper. Tu me demandes d'aller lui ouvrir les yeux, mais... voilà. Mais Saint Paul a dû... Et le jeûne aussi, c'était aussi dans ce sens-là. Il devait plus s'appuyer sur ses propres forces. Il a dû faire cette expérience de pauvreté qui était incontournable pour pouvoir être... Ça fait partie de son chemin aussi. Il a dû accepter de plus maîtriser les choses. Et pour lui, ça a été compliqué quand même, monsieur.
Ça fait penser à un petit parent qui était deux juifs qui lui font faire sa vie, et puis à un moment il y a un prêtre qui passe, qui sont embêtés, et lui dit, tu réfléchis avec ta tête ou avec ton cœur? Avec mon cœur, je suis le pauvre. Enfin, je pense qu'il y a peut-être quelque chose de ce temps là.
Oui. Mais c'est pas défendu d'utiliser sa tête, hein, bien sûr. C'est pas défendu, mais quelquefois, justement, c'est ce qui fait obstacle, de fait. Dans notre prière aussi, est-ce qu'on prie avec notre tête? On fait des savantes méditations avec notre cœur. Ce qui intéresse le bon Dieu, c'est qu'on l'aime. Pas qu'on fasse des superbes méditations qu'on pourrait publier.